VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 22 juin 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
En République centrafricaine, réaction de satisfaction après la condamnation de Jean-Pierre Bemba hier par la CPI.
Au Mali, des individus armés se sont infiltrés hier soir entre les deux checkpoints au nord et au nord-ouest de Tombouctou.
En Gambie, deux hommes devant le tribunal hier pour avoir accusé le président Jammeh d'animosité envers l'ethnie mandingue.
En Libye, au moins 34 membres des forces pro-gouvernementales tués mardi dans des combats avec les djihadistes du groupe État islamique assiégés dans le centre de leur fief de Sirte.
La Corée du Nord a tiré ce mercredi de puissants missiles de moyenne portée.
Et ne manquez pas le journal de l'Euro 2016 ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
À Bangui, satisfaction de la société civile après la condamnation de Jean-Pierre Bemba à 18 ans de prison. La Cour pénale internationale a infligé cette peine à l'ancien vice-président congolais pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Centrafrique. La sentence est le résultat de la pression que plusieurs organisations de la société civile avaient exercée sur le gouvernement de Bangui pour saisir la CPI. Eric Manirakiza a joint à Bangui le président de la Ligue des droits de l'homme, Joseph Bindoumi.
Nous avons attendu beaucoup de temps pour avoir le résultat que nous avons eu aujourd'hui, c'est-à-dire la condamnation de M. Bemba à 18 ans d'emprisonnement ferme. Mais ça nous réjouit. Quand bien même la procédure a été trop longue, trop lente, et puis qu'au cours de cette procédure, d'autres parties civiles sont décédées et n'ont pas écouté le jugement. Quand bien même la longueur de ce procès a fait que d'autres événements plus graves sont venus un peu léguer l'affaire Bemba au deuxième plan, nous sommes quand même très satisfaits de cette décision dans la mesure où il arrive, en ce qui concerne la République centrafricaine, au très bon moment pour qu'un message fort soit envoyé en direction des gens qui, aujourd'hui, comme les hommes du MLC, de Jean-Pierre Bemba commettent aussi des atrocités sur le territoire national.
En Gambie, trois hommes poursuivis pour avoir accusé le président Yahya Jammeh d'animosité envers les Mandingues ont comparu hier devant un tribunal de Banjul. Selon leur avocat, leurs aveux ont été arrachés de force. Idriss Fall.
Selon l'acte d'accusation, Ebri Maketa, Moussa Fofana et Alassane Diallo ont dit que les autorités ont enlevé Solo Sandeng, un opposant décédé pendant sa détention. Les trois prévenus auraient reproché au président Yahya Jammeh de ne pas aimer les Mandingues. Leur avocat Abdoulaye Fatih affirme qu'ils ont été battus, menacés avec une arme et contraints de faire des aveux écrits. Le président Yahya Jammeh est de l'ethnie Diola, alors que le chef de l'opposition, Ousseynou Darbo, lui aussi en prison, est un Mandingue. Pendant un meeting à Talendeng, non loin de Banjul, le président Jammeh a affirmé que tous les fauteurs de troubles dans le pays étaient des Mandingues. Adama Dien, le conseil spécial de l'ONU pour la prévention du génocide, s'est ému de ce discours contre les Mandingues, surtout lorsque Yahya Jammeh menace de les tuer un par un. Monsieur Dien rappelle que cette rhétorique au vitriol et les discours de haine peuvent aussi constituer un facteur de déclenchement d'atrocités, comme on l'a vu au Rwanda en 1994.
Au Mali, des individus armés se sont infiltrés hier soir entre les deux checkpoints situés au nord et au nord-ouest de Tombouctou. Ils ont tiré sur les positions de l'armée malienne qui a riposté. Selon notre correspondant Kassim Traoré, un soldat malien a été blessé. D'autres tirs ont aussi été entendus vers un autre checkpoint des militaires maliens. Le calme était revenu, nous dit Kassim Traoré, mais des éléments infiltrés étaient toujours dans la ville de Tombouctou.
En Libye, au moins 34 membres des forces pro-gouvernementales ont été tués, une centaine blessés hier, dans des combats avec le groupe État islamique assiégé dans son propre fief à Sirte. Le bilan des pertes du côté des combattants djihadistes n'est pas connu. Le point avec Eric Manirakiza.
Les forces du gouvernement d'Union nationale ont lancé le 12 mai une offensive pour reprendre Sirte, où elles ont pu entrer le 9 juin. Les milices de Misrata, les mieux armées du pays, des unités de l'armée libyenne et des gardes des installations pétrolières participent à l'opération militaire. Dans un communiqué, le centre de commandement basé à Misrata fait état de combats féroces contre les djihadistes. Depuis le début de l'offensive pour la reprise de Sirte, la progression a été ralentie par des djihadistes qui se cachent dans des maisons ainsi que des francs-tireurs postés sur les toits. Les islamistes ont aussi disséminé des explosifs sur les routes et ont recours à des kamikazes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Corée du Nord a tiré coup sur coup mercredi deux puissants missiles de moyenne portée. Selon le ministère sud-coréen de la Défense, l'un des lancements a échoué, mais l'autre engin a parcouru 400 km de distance. Il s'agirait de missiles Musudan de portée intermédiaire, des engins susceptibles de menacer les bases américaines de l'île de Guam dans le Pacifique. Le département d'État américain a condamné ces tirs avec force, les qualifiant de violations claires des résolutions de l'ONU interdisant à Pyongyang l'usage de toute technologie balistique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a pressé hier le gouvernement irakien de protéger les civils qui fuient Fallujah d'éventuelles représailles. Les forces irakiennes ont lancé le 23 mai une offensive pour déloger le groupe État islamique de cette ville située à 50 km à l'ouest de Bagdad. Jean-Roger Bion.
Le président du Conseil, l'ambassadeur français François Delattre, a déclaré qu'il est essentiel que l'État irakien s'assure qu'aucune exaction ni représailles n'est commise contre la population civile par des groupes paramilitaires. Le Conseil, à la suite de consultations à huis clos, a salué la réussite de la contre-offensive menée par les forces irakiennes soutenues par la coalition. Le groupe État islamique a perdu 45% du territoire qu'il détenait au plus fort de son expansion. Mais le Conseil de sécurité s'inquiète de la situation humanitaire à Fallujah, en particulier du sort de dizaines de milliers de déplacés, et il a demandé à toutes les parties de respecter leurs obligations conformément au droit international humanitaire. Ceux qui fuient les combats à Fallujah et autour de Fallujah ne doivent pas souffrir doublement. C'est une obligation que nous avons tous envers eux, a déclaré à la presse M. Delattre.
Ici aux États-Unis, deux hommes ont été reconnus coupables mardi par un tribunal américain de tentative d'aide à l'organisation djihadiste État islamique. Ils risquent plusieurs dizaines d'années de prison. Nader El-Ouzayel et Mohanad Badawi ont été reconnus coupables par un jury de conspiration pour fournir de l'aide matérielle à l'État islamique, a indiqué le ministère américain de la Justice dans un communiqué. Les deux hommes, âgés de 25 ans et originaires d'Anaheim, près de Los Angeles en Californie, avaient été arrêtés en mai de l'an dernier, alors qu'El-Ouzayel s'apprêtait à embarquer dans un avion pour la Turquie.
L'ONU a demandé au gouvernement du Soudan du Sud de traduire en justice les responsables d'une attaque menée en février contre un camp de déplacés géré par les Nations Unies à Malakal, capitale de l'État pétrolier du Haut-Nil. Attaque qui avait fait au moins 30 morts et 123 blessés. Selon les conclusions de l'enquête menée sur place par une équipe de l'ONU en mai, certains des assaillants qui ont pénétré dans le camp les 17 et 18 février portaient des uniformes de l'armée sud-soudanaise. Ils se sont attaqués systématiquement au campement des ethnies Nuer et Chi, tandis que les zones habitées par les communautés d'Inka et Darfouri ont été épargnées selon le même rapport. Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Quel que soit le choix des Britanniques.
On passe au sport à présent avec le journal de l'Euro avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Le tenant du titre espagnol battu se complique la tâche.
Battu par la Croatie 2-1 à Bordeaux, la Roja a perdu la première place du groupe D. Son tableau s'annonce infernal avec l'Italie en huitième de finale et peut-être l'Allemagne en quart de finale de cet Euro. Retour sur cette défaite avec Jean-Roger Billon.
Même avec la qualification en poche, Vicente Del Bosque aligne son 11 type. L'Espagne joue clairement ce match pour le gagner et se voit récompensé sur sa première occasion. Après un super mouvement collectif, Cesc Fabregas devance Danijel Subagic, mais le ballon semble filer à côté. Alvaro Morata suit bien et le pousse au fond. Son troisième but en trois matchs. Sans Luka Modric, la Croatie a besoin de temps pour mettre son jeu en place. L'équipe d'Amiens récolte le score en fin de première période. Ivan Perisic fait une percée côté gauche, centre, Nicolas Kalini surgit au premier poteau et égalise d'une superbe talonnade. La deuxième mi-temps est tout aussi disputée, les deux équipes ne se contentent pas du match nul et veulent arracher les trois points de la victoire. En fin de rencontre, Nicolas Kalini mène le contre, sert Ivan Perisic à l'entrée de la surface qui trompe David De Gea avec un tir du pied gauche. Un but d'une importance cruciale, la Croatie double la Roja et s'offre un huitième plus qu'accessible. L'équipe au damier est récompensée pour son beau jeu proposé depuis le début de la compétition. Les hommes de Vicente Del Bosque affronteront l'Italie en huitième de finale lundi à Saint-Denis. Un remake de la finale de l'Euro 2012 remportée par l'Espagne 4-0.
Dans le même groupe, la Turquie a sauvé l'honneur en battant la République tchèque 2-0. La Turquie qui termine troisième du groupe D. La bande à Fatih Terim doit attendre les derniers résultats des matchs ce mercredi pour savoir si elle pourra disputer les huitièmes de finale.
L'Allemagne se rassure et se qualifie.
L'Allemagne a retrouvé son rythme contre l'Irlande du Nord, même si elle ne s'est imposée que sur le plus petit des scores, 1-0. De retour dans le 11 de départ, Gomez a marqué le seul but de cette rencontre, joué dans une ambiance fabuleuse. La Mannschaft est première de son groupe. Dans un stade vélodrome de Marseille largement aux couleurs rouges et blanches, eh bien la Pologne a difficilement disposé de l'Ukraine 1-0. Là encore, la Pologne est qualifiée. Elle termine deuxième de son groupe et affrontera la Suisse lors des huitièmes de finale.
À suivre ce mercredi.
Dans le groupe E, le choc, Belgique-Suède et malheur aux vaincus et l'Italie face à l'Irlande. À noter que Zlatan Ibrahimovic a annoncé sa retraite internationale avec la Suède après l'Euro. Deux autres matchs, Idrissa dans le groupe F, Islande-Autriche et Portugal-Hongrie. Le Portugal a bien du mal à assumer son statut d'outsider de cet Euro 2016. Deux rencontres et deux matchs nuls pour débuter la compétition. Les Portugais affrontent donc la Hongrie pour leur troisième match. Ils doivent absolument s'imposer sous peine d'être éliminés de la compétition. On voit ça avec le correspondant de VOA Afrique en France, Christian Mpanzu.
Défaite interdite ce jeudi pour les Portugais. Après deux matchs particulièrement soporifiques, le Portugal est déjà dos au mur. Pourtant favori d'un groupe largement à sa portée, la sélection de Cristiano Ronaldo montre un visage bien pâle en comparaison avec les performances réalisées pendant les qualifications. Plusieurs problèmes sont pointés du doigt, avant tout le désordre tactique de l'équipe de Fernando Santos. À plusieurs reprises, le sélectionneur a entrepris des changements de formation, passant d'un 4-4-2 à un 4-3-3 en cours de match, de quoi troubler ses joueurs qui ont parfois des difficultés à se positionner sur le terrain. L'autre problème, c'est l'inefficacité offensive. Le Portugal parvient à se procurer quelques occasions, mais sur les trois attaquants titulaires, seul Nani a ouvert son compteur but. Épuisé par sa longue saison en club, Ronaldo est toujours muet, mais face à la Hongrie, à Lyon, la star portugaise compte bien faire preuve d'orgueil pour relever le niveau de son équipe. Depuis Paris, Christian Mpanzu pour VOA Afrique.
Merci Christian qui parlait donc du Portugal. Eh bien la plupart des grands se sont mis à l'abri, sauf, comme le rappelait Christian, le Portugal. C'est l'objet du coup de sifflet de Jules Valentin-Gouy.
Bonjour. À l'entame de la deuxième semaine de compétition, les choses commencent à s'éclaircir. Les grosses cylindrées se sont mises à l'abri ou s'apprêtent à le faire, en dehors d'un Portugal trop activement propulsé favori au soir de son éclatante victoire en amicale contre l'Estonie. Or, le Portugal peine à s'exprimer depuis l'opposition de style manquée d'entrée face à l'Islande et qui a laissé des traces. L'équipe, en pleine crise de croissance, a de nouveau balbutié son jeu contre l'Autriche. Et si l'élimination possible de la Seleção pourrait paraître anecdotique, ses effets collatéraux seraient graves pour son joueur vedette Cristiano Ronaldo. Transparent jusque-là, l'attaquant madrilène qui s'est payé un échec personnel contre l'Autriche doit obligatoirement sortir son joker devant la Hongrie afin de mériter une distinction au Ballon d'Or qui semblait lui tendre les mains depuis la finale de la Ligue des Champions. Ces malheurs font le bonheur de Messi, relancé par la Copa América, voire d'un troisième larron, Andrés Iniesta, brillantissime dans son rôle de véritable numéro 10 au sein d'une équipe d'Espagne qui rayonne. On l'a compris, les grandes compétitions servent de jauge aux meilleurs et nul doute que le champion portugais a saisi le message, car c'est face au mur qu'on reconnaît les grands joueurs. À demain.
Voilà pour ce journal de l'Euro, merci Nicolas Pinault. On termine par la première demi-finale de la Copa América Argentine-États-Unis. La nuit dernière, l'Argentine s'est facilement qualifiée pour sa troisième finale de suite dans un grand rendez-vous en dominant les États-Unis 4-0, mardi soir à Houston, dans le Texas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Sentence au procès de Jean-Pierre Bemba hier à la Cour pénale internationale de La Haye. L'ancien vice-président de la République démocratique du Congo est condamné à 18 mois de prison pour des exactions commises par ses éléments du MLC en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Au micro de Félix Yepassi Zembrou, l'avocate des victimes, maître Marie-Édith Douzima, exprime sa joie à l'issue de ce procès marathon qui a duré plus de 8 ans.
Oui, c'est un sentiment de satisfaction, même si je pensais qu'il allait écouper plus que ça. Je pensais à 20 ans, mais il a eu 18 ans. De l'histoire de la Cour, selon la jurisprudence de la Cour, c'est la peine la plus élevée que la Cour connaît depuis qu'elle a commencé à juger les chefs de guerre. C'est le premier chef de guerre à écouper 18 ans, donc plus que les autres.
Qu'en sera-t-il, maître des victimes, en ce qui concerne les indemnisations?
La Cour, tout à l'heure, a dit que dans les jours à venir, elle prendra une décision pour dire comment ça va se passer. Il faut rappeler que dans cette affaire, il y a plus de 5000 victimes, donc c'est l'affaire dans laquelle il y a plus de victimes. Donc on a battu le record à ce niveau. Et la Chambre verra comment ça va se passer. Nous attendons sa décision, mais toujours est-il que j'ai déjà eu à dire dans mes écrits à la Cour ce que les victimes centrafricaines attendent de la Cour par rapport à cette affaire.
Voyez-vous dans ce verdict d'aujourd'hui de Jean-Pierre Bemba un message en direction des autorités de la République centrafricaine qui ont mis en place une Cour pénale spéciale ce qui concerne les exactions qui ont été commises durant les dernières années?
Oui, vous savez que la Cour pénale internationale n'intervient que lorsqu'il n'y a pas eu de jugement sur le plan national. Et donc, nous estimons que la mise en place de la Cour pénale spéciale en République centrafricaine, qui est une juridiction nationale, bien qu'il y ait des juges internationaux qui vont intervenir dans cette Cour, c'est une bonne chose. Et nous espérons qu'il y aura d'abord une bonne collaboration entre cette Cour et la Cour pénale internationale, puisque la Cour pénale internationale est aidée par les autorités centrafricaines par rapport aux exactions qui ont été commises depuis 2012. Je crois que ça sera une justice de proximité. Les victimes seront là sur place, parce que bien que les victimes sur les 5229 victimes qui ont été reconnues par la Cour pénale internationale, certaines sont venues témoigner ici, mais il y a cette distance sépare le lieu où résident les victimes et la Cour. Donc, organiser des procès au niveau national serait une très bonne chose pour les victimes.
C'était maître Marie-Édith Douzima, avocate des victimes centrafricaines de la milice de Jean-Pierre Bemba.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bangui, sur 101.7 FM.
Le Mali veut changer sa constitution. C'est ainsi qu'un comité d'experts composé uniquement de Maliens a été mis en place. Les précisions de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est l'avocat maître Mamadou Ismaël Konaté qui est le président du comité. Il est assisté par des rapporteurs et des experts permanents d'une équipe d'appui administratif. Le président du comité planifie, dirige et coordonne les activités du comité. C'est pour cela que maître Konaté est très actif dans l'effectivité des activités du dit comité, qui n'a pas assez de temps, car il n'a que 6 mois pour présenter son rapport. Le travail interne à cours a permis d'élaborer les documents de base tels que la note d'orientation, la note méthodologique, la segmentation de la constitution, la synthèse des travaux de commission précédemment mise en place pour les réformes non abouties, l'élaboration des thèmes et opinions des jurisconsultes, la mise en place des commissions d'écoute des opinions des jurisconsultes, l'analyse des expériences d'ailleurs. Ce comité a l'avantage d'avoir en son sein des juristes et des personnes et ressources de qualité. Ce comité a la lourde responsabilité d'accomplir une mission noble et combien important pour l'avenir du Mali, car il s'agit de la loi fondamentale de la République. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Dans Washington Forum cette semaine, retour sur la situation politique et sécuritaire au Mali.
Il y a un peu plus d'un an, l'accord de paix et de réconciliation d'Alger était signé par le gouvernement malien et des groupes armés. Mais depuis, les actes terroristes n'ont pas cessé de secouer le pays du nord au sud. Comment assurer le retour effectif de la paix? Quels sont les blocages? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h, temps universel.
En Europe, le spectre d'un Brexit continue de planer. Stephen Clarke est un écrivain britannique qui vit en France. Il a publié « God Save the Brexit », un jeu de mots sur « God Save the Queen », l'hymne national de facto du Royaume-Uni. Il s'agit d'un roman qui donc raconte avec beaucoup d'humour les tiraillements d'un électeur britannique plongé dans un débat plus complexe qu'il en a l'air. Claire Moret-Gibourg l'a joint à Paris pour lui demander pourquoi la sortie de l'Union européenne était si populaire en Grande-Bretagne. Stephen Clarke.
Parce que les gens qui sont en faveur de cette sortie de l'Union européenne, le Brexit, British Exit, disent qu'une fois en dehors de l'Union européenne, la Grande-Bretagne va pouvoir faire ses propres lois, que rien ne sera imposé par l'Europe, par Bruxelles. On peint un tableau de ces bureaucrates de Bruxelles comme des dictateurs. Mais en fait, les gens qui parlent de ça ne se rendent pas compte que même si on sort de l'Union européenne, on sera obligé d'obéir à plein de lois européennes pour pouvoir vendre tous nos produits en Europe, parce qu'il faut respecter leurs normes. Donc ça, en fait, ça changera peu de choses.
Et quels sont les arguments de ceux qui, au contraire, veulent rester au sein de l'Union européenne ?
Ceux qui veulent rester disent que sortir va affaiblir la Grande-Bretagne parce qu'au lieu d'être dans une grande équipe européenne face au monde du commerce international, on sera tout seul. Et aussi, ça va non seulement affaiblir la Grande-Bretagne, l'économie, la livre sterling reste chutée tout de suite. Chaque fois que les sondages vont vers une sortie, la livre chute. Ça va aussi affaiblir l'Europe et l'euro. Parce que l'Europe sans une des plus grandes économies européennes. Donc ceux qui veulent rester dedans disent pourquoi affaiblir tout le monde en faisant ça.
Et alors pour vous, sur quoi va se jouer le référendum de jeudi?
D'abord, ça va dépendre combien de personnes se déplacent, parce que il y a, dans tous les sondages, il y a une bonne dizaine de pourcentages d'indécis. Donc c'est peut-être les indécis qui vont décider le vote. Ça dépend aussi si on continue de répéter qu'une fois sorti, on réglera le problème d'immigration. Parce que vous savez qu'il y a énormément de réfugiés syriens et afghans qui arrivent en Grèce. Et ceux qui veulent sortir d'Europe s'imaginent que si on sort, ce problème va disparaître. Et qu'il n'y a aucun immigré qui va essayer de rentrer en Grande-Bretagne. Depuis quelques temps, la campagne pour sortir répète de plus en plus fort que le plus grand problème en Europe, c'est l'immigration. Et s'il continue, ça peut motiver plein de gens. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Londres. Par exemple, si vous allez à Londres, vous allez dans n'importe quel café, la personne qui vous sert, ça sera quelqu'un qui est arrivé récemment en Grande-Bretagne. C'est une réalité économique et sans eux, tous les restaurants de Londres seraient des selfs et il n'y aurait personne dans la cuisine. C'est un peu la même chose pour les hôpitaux, mais il y a des gens qui sont contre ça.
L'écrivain britannique Stephen Clarke, auteur de « God Save the Brexit ».
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Nous vous le disions hier, le Sénat américain a rejeté un durcissement des lois sur les armes à feu après la mort de 49 personnes à Orlando dans la fusillade perpétrée par Omar Mateen le 12 juin. À un mois des conventions d'investiture présidentielle, il semble improbable que les parlementaires s'accordent sur ce sujet brûlant de la politique américaine dans l'impasse depuis des années. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint Vincent Michelot, professeur d'histoire politique des États-Unis à Sciences Po Lyon.
Il n'y a aucune surprise, surtout dans le contexte politique actuel, où on ne peut pas attendre d'aménagement sur la législation sur le port d'armes avant au moins le printemps, si ce n'est le début de l'été 2017, une fois qu'on aura un nouveau congrès, un nouveau président ou une nouvelle présidente.
Dans la campagne électorale elle-même, quels sont les poids des uns et des autres par rapport à ce débat sur les armes ?
Le débat sur les armes embarrasse le Parti démocrate qui est partagé. On sait qu'un certain nombre d'élus démocrates, par exemple Joe Manchin en Virginie-Occidentale, sont très opposés à une forme de resserrement du port d'armes. Côté républicain, on veut en faire une question de mobilisation des électeurs, en quelque sorte pour les effrayer sur l'éventualité d'un État trop puissant qui priverait les citoyens de leur liberté. Le débat sur les armes va remettre au premier plan la nomination du remplaçant du juge Scalia qui est décédé en février de cette année. Aujourd'hui, la Cour suprême sur ces questions d'interprétation du deuxième amendement est quasiment à égalité, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Celui qui sera nommé pour remplacer Antonin Scalia fera pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Et puis, il faudrait aussi qu'en parallèle, il y ait une évolution dans les États, puisqu'il faut quand même rappeler que ce sont dans les 50 États, autant qu'à l'étage fédéral, que se jouent les questions très concrètes de port d'armes. Il y a aussi la facilité à contourner la législation lorsqu'elle existe ou le peu d'efficacité de la législation telle qu'elle existe. On rappellera simplement, par exemple, qu'entre 1994 et 2004, il y avait une interdiction de fabriquer et de distribuer ces fameux fusils d'assaut qui ont été responsables de tant de tueries aux États-Unis. Et cette interdiction, qui n'a duré que 10 ans et qui n'a pas été renouvelée par le Congrès, n'a pas eu un impact très visible sur le nombre de meurtres par ces mêmes fusils.
C'était le professeur américanologue Vincent Michelot. La Minute Éco, nous retrouvons Nathalie Barge.
Le nombre de consommateurs africains devrait atteindre 1,1 milliard d'ici 5 ans, soit plus que l'Europe et l'Amérique du Nord réunies, selon un rapport de Boston Consulting Group. En Afrique, la consommation est stimulée par une offre plus variée et plus attractive et par une forte confiance en l'avenir pour 88% des personnes interrogées. Bien qu'il soit encore faible, le commerce en ligne offre de nombreuses opportunités de business, selon l'étude. La compagnie nationale aérienne camerounaise se porte plutôt mal, selon le ministre des Transports Edgar Alain Mbengo. Dans une interview au quotidien, il révèle que Camerco est confronté à des difficultés incontestables, soulignant que les charges sont largement supérieures aux recettes et que le déficit d'exploitation est d'environ 1,5 milliard par mois. Plus grave encore, ajoute-t-il, la dette fournisseur est extrêmement lourde puisqu'elle est estimée à près de 35 milliards de francs CFA. La fondation Mastercard a accordé 12 millions de dollars à la compagnie Microcred, spécialisée dans le microcrédit, pour un programme en Côte d'Ivoire, au Sénégal et à Madagascar. L'objectif est de permettre l'accord aux services financiers à plus de 1,2 million de personnes dans ces pays d'ici 2019.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 3140. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! I'm
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.